Serge Daniel. Il est 10h30 à Paris, 8h30 en temps universel. Dans 10 minutes, vos réactions, notre débat du jour sur la loi révisant l'amnistie au Sénégal. Mais d'abord, la dernière édition d'Afrique Matin. Bonjour Nemo Ampis.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Et justement, 126 voix pour, les députés sénégalais ont adopté la loi d'interprétation de l'amnistie. Votée il y a un peu plus d'un an sous l'ancien président Macky Sall. Retour sur cette journée et sur ces échanges tendus à Dakar dans un instant avec Léa Lisa Vesteroff. Les Guinéens voteront le 21 septembre prochain pour ou contre le projet de nouvelle constitution. L'annonce de la date du référendum a été faite par la junte au pouvoir. Comment réagit-on du côté de l'opposition ? On prend le pouls du côté de Conakry dans ce journal. Eux ont rendez-vous en Russie à l'invitation de leur homologue Sergueï Lavrov. Les premiers ministres maliens, burkinabés et nigériens de l'Alliance des États du Sahel devraient rappeler à Moscou que la sécurité au Sahel reste leur principale priorité. Et puis l'ONG Human Rights Watch qui dénonce un amalgame fait au Burkina Faso entre terroristes et journalistes, ce sera en fin d'édition. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a donc révisé hier la loi d'amnistie adoptée sous l'ancien président Macky Sall, un texte voté en mars 2024 pour apaiser les tensions politiques liées à la présidentielle, marquées par des violences meurtrières et des arrestations massives. Hier, cette loi d'interprétation a donc été adoptée à 126 voix pour, à l'issue d'une journée marathon de débats qui a remis en lumière les profondes divisions de la société pour savoir comment juger de façon équitable cet épisode douloureux de 3 ans de violence politique lors des manifestations de l'opposition. RFI Dakar, Léa Lisa Vesteroff.
Dans une ambiance électrique, pendant plus de 8 heures, des dizaines de députés du PASTEF se sont relayés à la tribune pour dire l'urgence de rendre justice aux trop nombreuses victimes des manifestations de l'opposition sous les 3 dernières années du régime de Macky Sall. Corriger cette loi d'amnistie afin de juger les auteurs d'assassinats, de meurtres et de tortures, c'était la meilleure option pour lutter contre l'impunité, selon le chef du groupe parlementaire du PASTEF, Aïb Dafé.
Que ça ne se reproduise plus, c'est en réalité ça qui se joue aujourd'hui. En tout cas, cette interprétation permet d'apporter la lumière sur des faits particulièrement graves, permet également de rendre justice à ces victimes parce qu'on parle de plus de 85 morts et le bilan n'est pas définitif parce qu'il n'y a jamais eu d'enquête.
Des enquêtes qui vont pouvoir être ouvertes désormais, mais en face, les députés de l'opposition ont dénoncé un deux poids deux mesures car les auteurs des saccages et de pillages resteront couverts par l'amnistie. Pour le député de l'opposition, Tierno Alassane Sall, c'est une façon de protéger les militants du PASTEF et ses dirigeants.
Ce qui est inacceptable, c'est d'essayer justement, au nom d'une graduation dans la douleur, de ne pas respecter la douleur et la souffrance des uns au prétexte qu'il ne s'agit pas de crimes de sang. Et qui veulent-ils couvrir ? En réalité, ils veulent couvrir celui qui a appelé les gens à manifester.
À peine la nouvelle loi adoptée, le parti de l'ancien président, l'APR, s'est fendu d'un communiqué dénonçant une loi scélérate qui incrimine les forces de défense et de sécurité. Léa Lisa Vesteroff, Dakar, RFI.
Elle est annoncée comme une première étape avant un retour à l'ordre constitutionnel. En Guinée, le général Mamadi Doumbouya a fixé au 21 septembre prochain la tenue d'un référendum sur une nouvelle constitution. Après son coup de force en septembre 2021, il s'était engagé à organiser un référendum pour transférer le pouvoir aux civils avant la fin de 2024, une échéance qui n'a finalement pas été tenue. Et à l'occasion des vœux de la nouvelle année, il avait promis que 2025 serait électoral. Face à l'annonce d'une date pour le référendum, une partie de l'opposition n'y croit plus, Mouktar Ba.
C'est une annonce qui a du mal à convaincre. L'opposition est vent debout contre la durée de la transition et ne croit plus aux promesses du chef de l'État. Édouard Zotomouk Pogomou est le vice-président de l'ANAD.
Ça, c'est une énième tentative de faire de la diversion. Le référendum était supposé prendre place dans le premier trimestre de cette année. Il a fallu une pluie de critiques pour forcer un décret qui sort dans le premier jour du deuxième trimestre.
Le général Doumbouya avait annoncé que toutes les élections se tiendraient au cours de l'année 2025, mais Édouard Pogomou ne croit pas.
Parce qu'il n'y a pas de volonté politique pour aller à toutes ces élections-là pour cette année. Un, on n'a pas de fichier électoral. À date, les experts qui doivent se prononcer sur la révision de cet avant-projet de constitution sont toujours en train de travailler. Alors, comment est-ce qu'on peut envisager de telles choses alors qu'il n'y a même pas de ressources?
Mais pour Diabaty Doré, le leader du RPR, le calendrier est tenable.
Je pense bien que oui, il faut se réjouir parce que c'est le début du retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire dans la normalité. Et à 5 mois de la date du 21 septembre, est-ce que cette date est tenable? Je dis oui, si la volonté est là, on peut aller au référendum. Mais est-ce que toutes les conditions se réunissent pour que les élections soient transparentes et crédibles?
Si des questions restent en suspens, le principal enjeu est de définir les critères d'éligibilité des candidats aux différents scrutins prévus avant la fin de l'année. Mokhtar Bakonakri, RFI.
RFI, l'actualité du continent. En bref, Barry Moussa Barké, élu président du Sénat au Togo, ce proche de Fornia Singbe, a été élu à l'unanimité ce mercredi. Il prend donc la tête de l'institution mise en place avec la réforme constitutionnelle de 2024. Conseiller spécial du président Niasingbe depuis 2009, Barry Moussa Barké a été plusieurs fois ministre du père Niasingbe Yadema, lui décédé en 2005 après 38 ans. Au pouvoir, la Libye annonce la fermeture des sièges et la suspension des activités de 10 organisations humanitaires internationales. Parmi elles, le Conseil norvégien pour les réfugiés, Médecins sans frontières ou encore l'organisation française Terre des Hommes. Elles sont accusées de trafic de migrants et de blanchiment d'argent sous couvert d'actions humanitaires ainsi que de vouloir, je cite, installer des migrants d'Afrique subsaharienne en Libye. Rendez-vous à Moscou pour les ministres des Affaires étrangères des pays de l'Alliance du Sahel, le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ils se rendent en Russie sur invitation de leur homologue Sergueï Lavrov. Une rencontre dénommée première session des consultations AES-Russie qui ambitionne de renforcer les relations entre les deux camps. Plus d'explications dans la correspondance régionale de Serge Daniel.
Partenaires privilégiés de la Russie, le Mali, le Niger et le Burkina Faso vont rappeler à Moscou que la sécurité au Sahel demeure leur principale priorité. D'après nos informations, dans les délégations sur place figurent des responsables à des questions de défense et de sécurité. L'hôte de la rencontre devrait à son tour rassurer les trois juntes membres de l'Alliance des États du Sahel. Que ce soit sous l'étiquette du groupe paramilitaire Wagner, sous une nouvelle dénomination, ou encore par le canal de la coopération officielle, la Russie entend renforcer ses liens avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Ces trois pays annoncent la création d'une alliance de défense collective. Pendant la visite de 48 heures en Russie, les problèmes économiques seront également sur la table de discussion. L'un des projets phares de l'Alliance des États du Sahel, AES, est la création d'une banque régionale d'investissement. Le partenariat avec Moscou sera demandé. Dans un autre domaine, celui de la diplomatie, les deux parties AES-Russie pourraient définir un cadre afin de parler sur le plan international d'une même voix sur plusieurs sujets. Serge Daniel, Dakar, RFI.
Au Mali, le préfet Dansongo a été enlevé ce mercredi dans la matinée par des hommes armés. Information transmise et confirmée à RFI par plusieurs sources locales. Ahmed Aga Aklini avait quitté Dansongo pour Gao dans le nord lorsque son véhicule a été intercepté par les assaillants qui ont tiré sur la voiture, libéré le chauffeur et sont repartis avec le préfet. Pas de revendication à ce stade, mais la zone est dominée par l'État islamique au Sahel. Le groupe djihadiste rival, le JNIM, lié à Al-Qaïda, y est également présent. Et puis au Burkina Faso, l'ONG Human Rights Watch déplore un amalgame entre journalistes et terroristes. Mardi, le service de sécurité a publié une liste de 32 noms et portraits de personnes recherchées pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Un avis de recherche où figurent bel et bien des djihadistes, mais aussi donc des journalistes ou des hommes politiques. Je vous propose d'écouter Ilaria Allegrosi, chercheuse senior sur le Sahel à Human Rights Watch.
Placer des journalistes, des activistes, des lanceurs d'alerte en exil sur une liste des terroristes est effectivement une tentative de les intimider. Cette liste, en fait, est l'énième, la dernière tentative de museler toute voix dissidente et s'inscrit bien dans un climat de terreur instauré par la junte. Il s'agit des personnes qui ont été contraintes à quitter leur pays à cause de la répression qui sévit au Burkina, à cause de la restriction de plus en plus croissante des droits, des libertés fondamentales. Des individus aussi qui ont eu le courage, il faut le rappeler, de dénoncer les dérives de l'armée, les exactions commises par les soldats burkinabés dans le cadre des opérations de contre-terrorisme. En fait, on a l'impression que les autorités sont en train de tout faire pour faire oublier le massacre de Solenzo, l'attaque de Diapaga et détourner l'attention de l'opinion publique vers d'autres questions.
Ilaria Allegrosi, chercheuse senior sur le Sahel à l'ONG Human Rights Watch. Elle était jointe par Weli Diallo. 10h40 ici à Paris, l'heure de vous rendre la main, Juan Gomez.
Avec plaisir. Nemo en piste, très bonne journée. Pour prochain. Grand rendez-vous avec l'actualité africaine à 12h30, temps universel. Afrique Midi, comme tous les jours, présenté par l'excellent Nicolas Sûr. À tout de suite.